Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Série. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Pino et Camille André. Prise de son assurée ce soir par Nadège Antonini et Cédric Châtelus. Réalisation Lise Combe. Autour de moi ce soir, en direct, en public, du Bel Air, le bar de la maison de la radio. On vous attend tous les vendredis. Enfin, il en reste deux. C'est la fin de saison. Nous sommes en compagnie de Lucille Como, Iris Bray et Olivier Joyard pour parler ensemble de Soupçons de Jean-Xavier de Lestrade. En cours de diffusion sur Canal+, bientôt sur Netflix. Three Girls de Nicole Taylor, disponible sur Arte+7 jusqu'à la fin de semaine prochaine. Et puis Sense8, l'épisode final de Lana Wachowski, disponible sur Netflix. Boris Pino est là pour surveiller les fils Twitter et Facebook de cette émission pour donner entendre vos commentaires. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour la dernière, c'est triste, exposition de la Maison Rouge, l'envol ou le rêve de voler qui s'ouvre demain et se poursuivra jusqu'au 28 octobre. Et nous ouvrons cette dispute avec Soupçons, dont l'auteur est Jean-Xavier de Lestrade, qui avait précédemment réalisé le documentaire Un coupable idéal, qui avait reçu un Oscar en 2002, qui a aussi réalisé depuis des fictions, notamment Trois fois Manon et Manon 20 ans, dont nous avons parlé. Dans la dispute, Soupçons, dont nous allons parler à présent, est une série documentaire qui connaît vraisemblablement son épilogue. Avec cette affaire, on n'est jamais sûr de rien, donc je prends des précautions. 14 ans après les 8 premiers épisodes que Canal+ avait diffusés en 2004, 5 ans après le film de 2 heures réalisé en 2013, 3 derniers épisodes pour une saga au très long cours. Donc son point de départ, dans la nuit du 9 décembre 2001, Kathleen Peterson est retrouvée morte en bas de l'escalier de sa maison. Son époux, le romancier Michael Peterson, est assez immédiatement accusé et sera même condamné pour assassinat.
Police secours, j'écoute.
Je vous en prie.
Qu'est-ce qui se passe ?
Ma femme a eu un accident. Elle est tombée dans l'escalier.
Je me rappelle avoir ouvert une porte, avoir téléphoné à police secours. Ce que j'ai vu, c'est une très importante quantité de sang qui ne concorde pas avec une chute du haut de plusieurs marches.
Sur l'envisage et l'utilisation de l'arme blanche, l'espace est trop confiné.
Les témoignages vont révéler qu'il est bisexuel.
J'avoue qu'aujourd'hui, je ne sais pas qui est Michael Peterson. Je n'en ai aucune idée.
J'ai très peur de l'issue de cette audience.
Je n'appelle pas ça une démarche scientifique.
C'est impossible de dire ce qui s'est passé, mais je sais que mon père n'a pas tué Kathleen.
Mon monde à moi n'a plus grand-chose à voir avec celui des autres.
Alors après cette aguiche en VF, on ne peut que vous conseiller la version originale. Bon, les comédiens de doublage font ce qu'ils peuvent. C'est peut-être pas quand même la meilleure façon de rentrer au cœur de Staircase, Soupçons au pluriel, pour la version française. Olivier Joyard va commencer à nous en parler, tiens.
Pourquoi pas ? C'est vraiment intéressant de parler des comédiens de doublage parce qu'en fait, c'est ce qu'on fait dans les vraies séries. Et donc là, on peut se poser la question, c'est une série de documentaires. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui est devenu ce qu'on appelle le true crime en anglais. Je ne sais pas quel est vraiment l'équivalent français. Le crime vrai, je ne sais pas si ça est très sexy.
C'est pas mal.
En tout cas, celle-là de Staircase, donc Soupçons, ça a été un peu la mère des séries documentaires de ce type-là. C'est celle qui... moi, m'avait un peu retourné en fait dans les années 2000 quand j'avais vu les premiers épisodes parce que c'est quelque chose qui vient. Enfin, moi, j'avais l'habitude de lire des choses comme ça plutôt dans la littérature américaine ou dans le journalisme. Il y a tout un genre de journalisme américain sur ces choses-là. Évidemment, il y a beaucoup de séries qui parlent de personnages de meurtriers et tout ça. Et là, on se retrouvait face à une sorte de film de procès. En même temps, une enquête qui était plutôt une enquête sur un homme qu'une enquête vraiment sur une affaire. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, c'est ce qui fait la force de Staircase, c'est que c'est vraiment une enquête sur cet homme, cet écrivain, qui a donc retrouvé sa femme morte en bas des escaliers chez lui.
Et dit-il.
C'est ça, dit-il. C'est le doute, et c'est une série sur le doute. C'est vraiment, enfin, c'est-à-dire que là, les trois derniers épisodes donc, sont ceux, ce que vous appelez un épilogue, qui est en fait un épilogue alors, dont je ne vais pas dévoiler vraiment le contenu, mais il y a quelque chose d'un peu déceptif. Il y a quelque chose de l'ordre de la... C'est-à-dire que tout ce qui faisait le sel de Soupçon, première manière, je dirais, c'est-à-dire...
Première presque, époque.
Oui, c'est-à-dire une cavalcade de faits qu'on peut comparer à Making a Murderer plus tard, qui est une autre série documentaire qui était sur Netflix il y a 2 ans, dont il va bientôt y avoir une deuxième saison. Donc quelque chose de vraiment haletant. Là, c'est terminé, en fait. C'est quasiment plus haletant du tout, et c'est simplement le portrait d'un homme vieillissant qui maintenant a plus de... Je crois qu'il a 73 ans. Mmh. Peut-être même 75 ans au moment où on se parle, et qui donc un peu fait le bilan de sa vie et de la tragédie qui a transformé sa vie. Et sa culpabilité, au fond, elle fait toujours un doute pour beaucoup de gens, mais c'est ça qui est beau, quoi. C'est délesté en fait de tous les atours, je trouve, hein, du film policier ou du documentaire sur un fait divers pour devenir un portrait. C'est d'ailleurs ce que font les meilleures séries policières, c'est quand c'est un portrait humain. Et là, on arrive à des choses quand même très, très, très complexes et très dures, quoi.
Moins haletant, mais pas moins poignant.
C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une sorte de tristesse absolue, existentielle chez cet homme, qui est en gros passé complètement à côté de sa vie, en tout cas dans sa dernière partie, et on ne sait pas si c'est à cause de lui ou si c'est à cause d'un système. Et c'est tout, donc c'est à la fois sur une institution, évidemment, sur la justice, mais ce que fait de l'Estrade, c'est qu'il prend... Alors disons que c'est le portrait de cet homme, donc il prend plutôt parti, c'est plutôt son point de vue. C'est le point de vue de cet homme qui est défendu, mais on peut pas dire que il cherche à l'innocenter, quoi. C'est vraiment très différent de Making a Murderer sur cette question-là, qui était plutôt à charge sur le système judiciaire.
Lucille Como, Soupçon, et vous ?
Oui, c'est vraiment en effet une série sur le doute à tous les niveaux, parce que c'est une question de doute dans l'appareil circonstancié, disons, de la justice américaine. Et puis c'est toute une réflexion sur ce que c'est que le réel, ce que c'est que la fiction. Moi, ça me fascine à chaque fois, et là c'est d'autant plus spectaculaire que c'est un Français qui réalise, de voir à quel point le réel à l'américaine prend de toute façon des tours de fiction, parce qu'il y a une telle mise en scène et mise en récit permanente par les protagonistes, hein, des vraies personnes, qu'il y a toujours une confusion absolument incroyable entre le réel et la fiction, ce qui fait qu'en effet, The Staircase est presque plus une fiction, parce que plus invraisemblable que tout ce qu'on aurait pu inventer autour de cette affaire, donc a priori toute simple, d'une femme qui se retrouve en bas de son escalier morte, il n'y a que son mari dans la maison. Et ça, évidemment, c'est lié au côté extrêmement spectaculaire de la justice américaine, qui là est vraiment bien décortiqué. On voit comment ça fonctionne. Il faut dire quand même qu'en effet, le narrateur choisit le point de vue de la défense assez vite, ce qui n'est pas évident dans les premiers épisodes. D'ailleurs, on peut croire qu'il va suivre un peu l'accusation et la défense, mais finalement, il suit surtout... la défense, et on voit les moyens qui sont déployés. Enfin, c'est un arsenal absolument incroyable et qui ressemble presque à l'industrie du cinéma ou de la télévision. On établit des scénarios, on invite des panels de gens représentatifs qui jouent les jurés pour essayer de voir quel type de scénario, quel type de défense peut fonctionner, quel type d'argument mettre en avant, comme on ferait une analyse de la réception d'un film à venir. On crée des décors, puisqu'on recrée, en effet, il y a un moment, un passage très impressionnant, où on recrée en 3D, puis je crois en réel, la maquette réduite de l'escalier. On crée des effets spéciaux, parce qu'il y a un enjeu incroyablement complexe autour des taches de sang, parce qu'en effet, cette femme est retrouvée, et ce qui est immédiatement impressionnant, ce qui fait dire aux policiers, on l'entendait dans la bande-annonce, que c'est un crime, c'est qu'il y a du sang absolument partout. Donc c'est vertigineux, ce niveau de confusion entre le réel et ce que ce réel aurait pu donner s'il avait été adapté au cinéma. Il y a un passage que je trouve assez révélateur de ce point de vue. L'avocat, à un moment donné, regarde en permanence, et ça c'est très américain, regarde en permanence des reportages télé sur l'affaire qui est en train d'être jugée, sur le procès qui est en train de se dérouler. Et il est extrêmement énervé parce qu'une des journalistes a fait mention de taches de sang essuyées dans la cuisine, ce qui est apparemment pas avéré du tout et qui ne fait même pas partie des preuves de la police. Et il appelle immédiatement à la sortie du procès la journaliste en question pour dire « Mais qu'est-ce que tu fous ? C'est pas du tout ça qu'il faut dire, tu fais pas ton boulot de journaliste. » Et on voit à quel point la question de la narration du fait, le deuxième niveau après la vérité, importe, et à quel point tout n'est qu'à faire de récit. De ce point de vue, ça illustre quelque chose, je trouve, des États-Unis et du rapport à la fiction aux États-Unis.
Bon, il appelle son rédacteur en chef, hein, d'ailleurs, plus précisément, en lui demandant comment une fille aussi stupide pouvait couvrir découvrir, être l'envoyé permanent pour le procès. Iris Bray, premier regard sur Soupçon de Jean-Xavier de Lestrade.
C'est un peu un deuxième regard, parce que moi j'ai regardé les 10 premiers, donc là j'ai vraiment l'impression de voir une espèce d'appendice en fait, de ce que j'ai vu il y a déjà plusieurs années. Donc, je trouve que c'est intéressant du point de vue sériel de se replonger dans une histoire qu'on avait totalement mis de côté dans sa tête. On y avait repensé au moment de Making a Murder ou de The Jinx. Ce qui me fascinait au début, c'était que contrairement à Making a Murder, on est face à un homme éduqué, qui a beaucoup d'argent au début. Et là, ce qui était frappant dans ces trois derniers épisodes, justement, c'est sa chute, c'est-à-dire qu'il n'a plus d'argent. Il lui reste que quelques membres de sa famille, puisque une partie de sa famille s'est désolidarisée de lui. Et puis, moi, le point qui m'intéresse le plus, en fait, dans son histoire, c'est le moment où il accepte de parler de sa bisexualité, qui était un gros moment du procès. Et il dit que c'est la première fois, en fait, qu'il en parle aussi longtemps face à quelqu'un. Et c'était peut-être, pour moi, le moment le plus poignant de voir un homme qui arrive vraiment en fin de vie, qui a passé 8 années en prison, et qui finalement arrive quelque part à toucher sa vérité. Et c'est peut-être justement, du coup, j'avais l'impression que je sais même pas si j'avais envie de le voir, ça. C'est presque pour moi une autre série. C'est montrer comment ce personnage, qui est devenu un personnage de fiction grâce au réalisateur, tout d'un coup se rend compte lui-même de la fiction qu'il a jouée toute sa vie. Et donc oui, il y a toujours ce trouble autour de qu'est-ce qui est la réalité et qu'est-ce qui est vrai. Et finalement, on se demande si lui-même, quel est le masque qu'il a porté toutes ces années. Et voilà, et est-ce que... Quel est le sort qu'on mérite quand on se cache derrière quelque chose ? Enfin, je ne sais pas, j'avais l'impression que c'est un autre sujet pour moi. En fait, c'est une série qui est presque séparée de The Staircase. Là, on ne parle plus des escaliers, quoi. On parle de la chute d'un homme.
Oui, mais en même temps, ces propos-là, il peut les tenir à Jean-Xavier de Lestrade parce que ça fait 15 ans qu'ils se connaissent, ça fait 15 ans qu'il est là, qu'il fait des allers-retours, sont toujours forcément d'ailleurs filmés, qu'il y a c'est son confesseur finalement, et c'est une chose qu'il pose d'emblée quand il le rencontre la première fois. Il le répétera d'ailleurs plusieurs fois au cours des différents épisodes. Je vous ai dit dès le départ, je vous dis tout, je vous cache rien, vous avez accès à tout. Alors, on le croit ou pas, c'est aussi un des enjeux de la série. Vous voulez préciser, Iris ?
Oui, mais justement, je trouve que cette réalisation des trois derniers épisodes se fait par à-coup. Et je trouve ça très désagréable. Moi, j'ai envie de quelque chose de beaucoup plus posé, des heures face à cet homme et de le voir. Là, Oui, c'est autre chose. Mais on a l'impression que du coup, on essaye de rajouter des petites scènes, de remettre un peu de punch, alors qu'en fait, finalement, c'est très triste ce qu'on est en train de regarder. Donc... asseyons-nous, restons avec la tristesse et arrêtons de faire semblant que ça va être un procès avec des retournements. Non, c'est la fin d'un homme. Regardons ça en face.
Alors moi, j'ai découvert les 13 épisodes d'un coup, en 4 soirées, très intense. Et c'est vrai que c'est assez extraordinaire et terrible de se dire que la vie est toujours plus forte que, ou ose plus que le plus chevronné des scénaristes, parce que vraiment, notamment les 3 ou 4 premiers épisodes de la série, donc originelle, c'est absolument invraisemblable. Sens propre, tout ce qui arrive et tous les éléments nouveaux, c'est la question de la bisexualité. Il y aura un pan de l'affaire qui emmènera tous les protagonistes en Allemagne. Moi, je n'ai pas envie de trop divulgâcher, mais c'est vraiment extraordinaire. Alors, bon, il y a l'intuition, certes, de départ de Jean-Xavier de Lestrade. J'ai lu depuis que, en fait, après Un coupable idéal, on lui a proposé de travailler sur un autre projet documentaire, c'est bien de l'expliquer, et que donc ils ont cherché avec une équipe, ils ont regardé 400 cas judiciaires qui étaient en train d'advenir à ce moment-là aux États-Unis, parce qu'ils cherchaient l'exact opposé, c'est-à-dire que un coupable idéal, c'était un noir accusé d'avoir tué un blanc, sans moyens, comment on peut être broyé par le système quand on est démuni. Donc là, ils voulaient un blanc riche, qui avait les moyens de se défendre, et c'est vrai que ce que vous disiez, Lucille Comeau, on découvre des métiers extraordinaires, coach de témoins, ou spécialiste de sélection de jurés, enfin c'est quand même assez ahurissant la machine. Et c'est vrai que ce qui est là où l'intuition peut-être de Jean-Xavier de Lestrade est formidable, c'est que tous les personnages, faut les appeler comme ça, ou toutes les personnes de cette histoire sont fascinants. Bon, l'accusé, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, l'avocat David Rudolph, il a quand même une présence folle à l'écran, il a un charisme vraiment très important. Il y a ce détective privé qui va être là tout du long, Ron Garrett, qui est vraiment, enfin, plus que c'est plus que qu'il est sorti d'un film noir. Enfin, il y a quelque chose de très intéressant. Le juge, qui est d'ailleurs le même aussi dans toute l'affaire, qui est une figure assez complexe à saisir, Et là, pour le coup, dans le dernier épisode, il y a quand même son dernier entretien, dont je ne divulguerai rien, mais qui laisse un goût très, très amer et qui noircit encore le regard qu'on peut avoir rétrospectif sur la série. Et puis, quand même, il se passe des choses assez haletantes dans ces trois derniers épisodes avec Candace, l'une des sœurs de la défunte, qui est quand même qui déverse d'une façon folle, on peut pas le dire autrement, la haine qu'elle a envers son ex-beau-frère. Ça donne quand même des séquences, d'autant qu'elle se réfère au pseudo-documentaire se tournant vers la caméra de Jean-Xavier Destrade, et on voit comment le film est devenu d'ailleurs une pièce à conviction pour la réouverture de ce procès. Enfin, il y a quand même quelque chose qui se joue qui est assez vertigineux. Lucille Como ?
Oui, c'est ça ce qui est très intéressant dans la posture de Jean-Xavier Destrade. Moi, j'ai eu quelques doutes justement sur l'endroit où il se tenait dans ce projet au début, quand justement, au bout de 2-3 épisodes, on comprend qu'il choisit très clairement le camp, entre guillemets, Peterson. Mais en fait, il met en effet en scène, et c'est ça qui est vertigineux, sa propre posture, sa propre partialité, sa propre subjectivité, qui est nécessaire, je pense, quand on en arrive à ce temps-là et à ce point-là, en justement incluant, parce qu'il aurait pu couper dans son documentaire, le doigt pointé de la sœur de la victime qui lui dit de toute façon, vous avez participé à faire passer, je ne sais plus son prénom, Peterson pour Michael Peterson pour un comme innocent, et puis même il se filme lui-même. Je crois qu'il y a un passage où on le voit prendre dans ses bras Michael Peterson
dans la cellule, au
moment du deuxième procès. Et ça, je trouve que à la fois il y a quelque chose de gênant, et en même temps c'est justement là que réside l'intérêt. Et je pense que là, pour le coup, il y a quelque chose d'assez français dans cette posture là et juste pour finir sur les trois derniers épisodes, que moi j'ai trouvé un peu décevant justement, mais c'est peut-être parce que, comme j'avais jamais vu, en effet il y a un gros ralentissement, il y a beaucoup de plans sur lui où il se met en scène. Je suis pas absolument certaine de sa sincérité, mais bon, ça, de toute façon, c'est toujours la même question. Mais même dans la manière dont il s'ouvre supposément à la personne qui est en face de lui, et là je trouve qu'il y a aussi quelque chose d'assez français dans le risque de s'appesantir comme ça sur un personnage. On retrouve une réalisation, ou du moins un type de télévision, de cinéma à la française. C'est pas inintéressant.
Olivier Joyard.
Oui, moi j'aime bien ça. Surtout qu'on dit qu'il assume son point de vue pro Michael Peterson, mais au fond, c'est quand même pas ce qu'il filme. C'est-à-dire qu'il se met en scène, il fait pas semblant de pas être là. Enfin, c'est-à-dire qu'il explique, voilà, moi je suis là. Il y a ce moment dans le procès qui, pour moi, est un retournement que j'adore vraiment, qui est, pour le coup, effectivement ultra fictionnel, avec la sœur de la défunte qui déverse sa haine et qui dit surtout que, comme si voilà, c'était le film qui avait changé le réel. Il a quand même été condamné par ailleurs. Enfin, je veux dire, il y a des faits qui disent d'autres choses qu'elle. Et donc, moi, je trouve ça vraiment fort. Je trouve qu'il maintient un doute, mais très étonnant, mais qui rejoint
qui est
un peu
le sien, non Iris.
C'est ça, mais c'est un doute. C'est un doute sur qui est cette personne. Ça va au-delà de sa culpabilité. Donc là où ça devient vraiment ultra romanesque, et que l'effet sériel et l'effet de revenir 15 ans après, enfin 10 ans après, disons, une première volée d'épisodes comme ça, c'est vraiment, là pour le coup, c'est très beau. Et qu'il ne se passe rien, à la limite, oui, Iris disait, on a envie de le voir pendant 3 heures en plan fixe. Pourquoi pas ? Mais moi, c'est presque l'impression que ça me donne, en réalité. C'est qu'on suit juste ce corps qui est dépéri, et il nous parle de ses désirs. C'était quoi ses désirs ? Il y a la bisexualité, qu'est-ce que ça veut dire ? Il a été attaqué pour ça, parce que c'était soi-disant un argument pour dire qu'il cachait tellement de choses et qu'il mentait à sa femme, qu'il avait eu envie de la tuer.
Ouais.
Voilà, c'est ça. Et donc, mais moi, je trouve ça ultra renoirien aussi comme moment pour revenir à la sœur. C'est vraiment, tout le monde a ses raisons. Enfin, c'est vraiment la règle du jeu. C'est quelque chose qui, on se dit vraiment, effectivement, c'est irréconciliable absolument, et c'est de là que naît la tragédie. En fait.
Et puis il y a cet effet un peu, on va dire, boyhood, de voir ces gens vieillir. Et ça fait partie d'une chose extrêmement émouvante, Iris Bray.
On en avait parlé au moment de Twin Peaks. Hein,
oui,
c'est
également
vraiment revoir nos fantômes. Et de toute façon, la question, c'est là. C'est l'absente, c'est Kathleen. Qui est cette femme? Où est-ce qu'elle est? Dans ces trois derniers épisodes, j'ai eu l'impression qu'on avait accès à beaucoup plus de photos. Enfin, il y avait
des home movies qu'on n'avait pas vus dans les films précédents.
Voilà, qu'on n'avait pas vus dans les épisodes précédents. Et c'est comme si tout d'un coup, l'espace de la morte, l'espace de la défunte, se vit de là. Jean-Xavier de Lestrade voulait tout d'un coup la montrer avant qu'elle disparaisse à tout jamais. Parce que c'est aussi ça, là. C'est la fin de la série, c'est la fin de cet homme, mais c'est aussi, on ne se souviendra plus de cette femme. Il y a quelque chose où vraiment, je pense que, évidemment, il ne va plus y avoir de procès, c'est terminé. Mais c'est aussi un moment d'adieu à cette femme dont on ne sait toujours pas comment elle a été tuée. Peut-être
comment elle est morte.
Ouais, comment elle est morte. Moi,
vous avez
la
dit
théorie...
comment elle a été tuée.
Oui, non, mais moi, la théorie de la chouette, je dois le dire, qui n'est pas du tout évoqué dans les trois derniers épisodes me manquait. Je me suis dit, il y a quelque
peut-être
chose.
Peut-être a-t-elle été attaquée par un rapace. J'ai vu que Jim Hardin, le procureur, le premier procureur, qui est absolument quand même terrifiant aussi, qui ressemble un peu à Al Gore, mais au-delà de ça, il est vraiment assez terrible. Il disait dans la presse récemment qu'il devait y avoir un deuxième homme, un complice, qui aurait aidé Michael Peterson. Donc il y a encore l'envie que cet homme soit coupable n'est pas achevée. Louis Joyard, vous voulez dire un dernier mot ? Vous confirmez le dire de Jim Hardin.
Chouette. Ça va continuer dans l'imaginaire de certaines personnes, mais je pense que c'est bien que la série s'arrête, par contre.
Eh bien, on peut la découvrir en ce moment sur Canal+, cette série Soupçon de Jean-Xavier de Lestrade. Et puis, en effet, elle sera bientôt disponible sur Netflix. À suivre dans la dispute. Fait divers toujours, mais mise en fiction avec Three Girls. Et puis l'épisode final de Sense8.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Suite de cette dispute consacrée ce soir aux séries, toujours en direct en public du Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, avec une mini-série anglaise, Three Girls, diffusée hier soir sur Arte, donc disponible en ligne jusqu'au 21 juin sur le site de la chaîne, réalisée par Philippa Lothorpe et écrite par Nicole Taylor. Cette mini-série revient sur un fait bien réel, un trafic sexuel d'adolescentes organisé par des hommes d'origine pakistanaise à Rochdale, près de Manchester.
There's no such thing as a child prostitute. What there is a child who's been abused.
The 9 men have been released on bail.
How many victims?
47. And when they went to the police, nothing was done about it.
No one bothered.
What do you think that does to a kid?
We treat them as human beings and we say we're sorry.
This entire operation stands and falls on us being able to re-engage these girls.
What is the point if a jury is not going to believe she's telling the truth?
I watched her interviews and I believed her.
Let's stop this. You and me.
Three Girls.
Three Girls, diffusée hier soir sur Arte, qui nous informe que les trois épisodes ont réuni en moyenne 4,3% de PDA et 849 000 téléspectateurs. C'est l'une des quatre meilleures audiences de l'année du rendez-vous série. Pour autant, on va savoir ce qu'on en pense, nous, autour de cette table. Lucille Comeau, vous commencez à nous parler de cette mini-série.
Oui, alors avec Three Girls, on est vraiment dans la veine du cinéma naturaliste tel que le cinéma anglais peut savoir en faire, sauf que là on est à la télévision. Et de la même manière que j'admire la manière dont le réel peut faire fiction aux États-Unis, là j'admire vraiment la manière dont une caméra, dont la réalisation anglaise réussit à s'emparer d'un réel contemporain en plus aussi compliqué, et en particulier de cette question sociale et sexuelle, avec à la fois du réalisme, parce que c'est la question, et également ce qui est propre au naturalisme, à savoir l'engagement moral. Il s'agit de vraiment faire preuve et faire exemplarité, ce qui parfois peut donner des formes très closes, que moi j'aime pas trop. Je pense, j'ai évidemment pensé au cinéma de Ken Loach, parce qu'en tant que Français on pense toujours à ce cinéma là quand on voit ce type de fiction. Là je trouve qu'au contraire c'est très réussi, parce que justement c'est pas trop fermé, c'est pas une série trop close. Donc vous avez un petit peu raconté l'histoire, je crois que la scénariste et la réalisatrice ont beaucoup travaillé pendant des années ces cas qui en fait ont été révélés même par la justice anglaise extrêmement tard, par rapport au moment où ça s'est déroulé. Voilà, il y a eu, et c'est vraiment dans ce délai-là que se déploie la fiction, que ce délai qui rend la série extrêmement éprouvante. C'est très difficile, moi je trouve, à regarder. J'ai regardé les trois épisodes d'un coup, et de toute façon c'est fait exprès, c'est l'épreuve fait ressentir l'injustice absolue de ce qui est arrivé à ces trois filles. Ce qui est passionnant, je trouve.
Et des dizaines et des dizaines d'autres.
Oui, alors en l'occurrence, voilà, là, dans la fiction, préciser. Ce qui est bien aussi, et justement, c'est villes. Que c'est bien quand même bien centré. D'ailleurs, c'est extrêmement centré parce qu'il y a très peu de plans larges dans la manière dont c'est mis en scène. On est vraiment au ras des yeux de ces trois jeunes filles qui sont encore des enfants, donc assez bas, en fait. Même de taille, elles sont assez petites.
Ouais, et, 14, et dans
les,
15 ans,
voilà,
16
parmi
ans,
les premiers plans, il y a un moment où l'héroïne entre dans une maison et on sent que tout se referme. La caméra fait qu'on est absolument enfermé dans cette logique dans laquelle elle va se retrouver, qui est une logique absolument effroyable, tout en conservant une forme d'oscillation, et là je trouve ça absolument merveilleux la manière dont c'est fait, entre deux possibilités qui est le choix et le non-choix. C'est-à-dire que la question du choix qui va être au cœur de, après, de la logique judiciaire, de est-ce qu'elles ont accepté, est-ce qu'elles se sont résignées, pourquoi elles ne se sont pas révoltées plus tôt, pourquoi elles n'ont pas dénoncé, pourquoi elles sont retombées dedans alors qu'elles avaient dénoncé. Toutes ces questions-là qui sont des questions d'une ambiguïté absolument incroyable et qu'on peut résoudre d'un coup, comme le fait l'assistante sociale dans la bande-annonce qu'on vient d'entendre, en disant ce sont des enfants. Mais de fait, la question s'est posée puisque tout le procès a tourné autour de ça. C'est absolument passionnant et je pense que cette finesse-là de l'analyse psychologique, psychosociale, elle tient vraiment au jeu. Moi, j'ai ces trois actrices, je vais les citer, Molly Windsor, Ria Smitrovich et Liv Hill, je les trouve absolument incroyables. Et notamment Ria Smitrovich qui joue une des filles qui est certainement la plus intéressante puisqu'elle s'appelle Amber et elle a été un temps accusée d'être une entremetteuse au sens judiciaire du terme, c'est-à-dire qu'elle a vraiment été accusée d'avoir prostitué ses amis alors qu'elle a un an de plus qu'elle au moment des faits. Ça, ce personnage-là, c'est un des plus déchirants parce que pour le coup c'est le destin le plus terrible, mais c'est le plus passionnant et il est interprété vraiment à merveille. Moi j'ai trouvé que c'était une très belle série.
Iris Breiter, Three Girls.
C'est une série magnifique et très éprouvante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a vu le premier, moi j'étais tentée d'arrêter, je trouvais ça presque trop difficile et je suis heureuse d'avoir continué. C'est quand même une série qui met en scène comment les jeunes filles et les femmes agressées de manière générale ne sont pas protégées. Et c'est ce qui est mis en scène, en fait, c'est vraiment le basculement, le premier basculement. Et puis après, comment est-ce qu'on fait pour remonter? Comment est-ce qu'on fait pour se remettre à respirer? Donc, il y a quelque chose d'extrêmement anxiogène. Et la réalisation fait que nous, on est dans cet état-là où même nous, on n'arrive plus à trouver notre souffle. Donc, ça, je trouve que c'est bouleversant. Ça me fait presque plus penser. On parle beaucoup de Ken Loach, mais je pense plus aux jeunes adolescentes des films d'Andrea Arnold, comme ça, où il y a quand même un instinct de survie qui est quand même tout le temps là, malgré tout, et de rapport à la sexualité qui fait qu'à leur âge, elles ne savent pas vraiment. Moi, ce qui m'a un tout petit peu manqué dans le deuxième et le troisième épisode, c'est qu'on n'ait pas plus le procès. C'est-à-dire que le procès est très court. J'ai l'impression que, bon, on entend, il y a que deux des filles qui parlent pendant, deux des trois héroïnes qui parlent pendant ce procès. J'aurais aimé qu'on s'attarde un peu plus longtemps, en fait, sur comment est-ce que cette parole est construite. Et voilà. Et c'est fou, en fait, de voir The Staircase et Three Girls parce que ça pose vraiment la question comment est-ce qu'on se protège et comment est-ce que ces systèmes-là ne broient pas tout le monde, en fait. On a vraiment l'impression d'un échec absolu. Et ce personnage d'assistante sociale, qui est peut-être, en fait, aussi une des grandes révélations, je trouve, de la série, dans ce qu'elle apporte et dans le regard qu'elle est là, qui va finalement être aussi notre regard, parce que nous, on voit devant nous l'horreur et arriver devant nos yeux, et c'est la seule à le voir, c'est la seule à pouvoir mettre des mots dessus. Et je trouve que oui, c'est une série très courageuse.
Alors, peut-être pour préciser là encore, pardon, mais comme vous parlez d'assistante sociale, elle n'est pas assistante sociale. Oui, Sarah, elle est employée du centre local de prévention sur la sexualité. Et c'est bien tout le problème, c'est qu'elle n'a aucun moyen d'action. C'est une chose dont on pourra sans doute reparler. Olivier Joyard.
Elle est simplement en contact avec les adolescentes et c'est elle qui fait naître leur histoire. Lucille parlait d'ambiguïté. Moi, je vois pas d'ambiguïté, en fait, dans ce qui se passe. J'ai une ambiguïté dans le regard extérieur, et c'est ça que met en scène la série. C'est-à-dire que il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait qu'elles ont été violées, sur le fait que il y a des crimes qui ont été commis contre des enfants. Et c'est là où je trouve que c'est un peu la télé anglaise dans toute sa splendeur, je dirais. Alors dans son essence même, c'est-à-dire quelque chose qui est pas formellement. Moi, je trouve pas ça ultra élaboré formellement. C'est une tendance de la télé anglaise, disons, bien faite, que je trouve un tout petit peu à la limite du décoratif. Mais par contre, la puissance de commentaire sur la société dans laquelle on vit, elle est incroyable. Enfin, elle est vraiment... C'est BBC One, c'est-à-dire c'est un mastodonte. C'est les moyens de TF1 dans le corps de France 2, quoi, je dirais à peu près.
C'est bien résumé.
Et donc moi, c'est ce qui m'a captivé vraiment, c'est que c'est structuré en trois parties. D'abord, on voit ce qui s'est passé. Ensuite, on voit le chemin vers la justice, et ensuite la justice qui s'accomplit d'une manière disons, un peu
discutable.
Étonnante et discutable. Ouais. Et surtout, donc, ce surgissement de la parole-là, il est tellement d'aujourd'hui, ça a été diffusé il y a un an en Angleterre. Donc avant, disons, ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc on voit que c'est un sujet qui est ultra contemporain. C'est un sujet qui reste, comment dire, qui nécessite une pédagogie. Donc, au fond, j'ai envie d'excuser la série pour son côté parfois un tout petit peu pâteau dans ce qu'elle peut raconter, puisqu'il y a besoin de pédagogie, il y a besoin de dire que l'ambiguïté, ça n'existe pas dans ces moments-là. L'ambiguïté, c'est notre regard, il y a de l'ambiguïté dans la vie d'une manière générale, mais sur ce qui s'est passé là, c'est pas du tout... je pense pas qu'on puisse dire les choses comme ça. Donc moi, c'est ça qui m'a vraiment intéressé. Et par ailleurs, ce que je regrette un peu, c'est l'idée que la télé anglaise d'il y a, disons, une trentaine d'années, moi j'adorais Alan Clark qui a fait Elephant, qui était et Christine,
c'était autrement,
qui était des drames sociaux, mais c'était des drames sociaux et c'était la même
radical.
Idée.
Radical.
Bien sûr, mais vous avez raison. Mais c'est moi, c'est ce qui me manque aujourd'hui, c'est un regard puissant d'artiste sur ces choses-là.
Mais il manque, pardon, mais Ken Loach de ces années BBC ou Mike Lee ou Stephen Frears, ils ont tous commencé dans cette télévision publique le plus souvent anglaise avec des Made in Britain, c'était quand même quelque chose de très fort aussi. Enfin, il y avait formellement, moi, c'est comme on est une émission de critique culturelle, je parle quand même d'abord de forme et d'esthétique. Alors peut-être que j'appréhendais trop, si le Gobo au bureau m'avait préparé le terrain en tant que père de deux adolescentes, qui plus est. Et du coup, j'ai trouvé la série quand même très... oui, vous avez dit pataude. Allez, je vais peut-être reprendre cet adjectif pour ne pas être trop méchant. Parce que je trouve que ce n'est pas très bien structuré, je trouve que ce n'est pas tellement mis en scène, et que c'est effectivement, pour moi, sauvé par son interprétation. Et là, pour le coup, là... la tradition et l'école anglaise de jeu, elle est absolument opérante ici, bien sûr sur la dimension pédagogique et sur l'importance extrême qu'il y a à faire des fictions de cette nature sur ces sujets-là. On aimerait bien que ça franchisse la Manche, mais bon, je pense que c'est un problème de durée. Je pense que c'est beaucoup trop court et que de ce fait, il y a quand même des choses qui sont sur lesquelles on passe extrêmement rapidement, que les ellipses temporelles, elles sont problématiques. On a du mal à voir l'évolution des différents personnages. Je trouve que la question justement du basculement, du retrait, de la façon dont on replonge n'est quand même pas du tout mise en scène et enfin même pas prise en considération. Ce personnage de Sarah, en effet, employée du centre local de prévention sur la sexualité, je l'ai noté pour être tout à fait sûr de dire bien la chose, il me semble être un des personnages majeurs de l'histoire et qu'elle est quand même très peu utilisée et que les scènes qu'elle a sont là pour faire avancer le récit mais n'offrent pas vraiment une épaisseur psychologique à cette femme dont on ne sait à peu près rien, si ce n'est un scandale qui a l'air, un scandale qui la concerne, qu'on voit dans un carton de fin. On peut le dire quand même, cette femme a perdu son emploi alors qu'elle révèle cette histoire. Enfin bon, j'espère que on va suivre ce qui lui arrive. Mais trop court, je vais prendre un dernier exemple. L'un des problèmes évoqués, ou l'un des prétextes évoqués par la police pour ne pas avoir lancé véritablement d'enquête au moment où les faits sont révélés, plusieurs années donc avant l'action de cette mini-série, c'est que comme c'était des hommes majoritairement ou et quasi exclusivement d'origine indo-pakistanaise, ils avaient peur, la police, qu'on les taxe de racisme et que ça pose des problèmes dans la communauté urbaine de cette petite ville. Alors du coup, les faits se produisent, il y a ce procès, les hommes sont tous d'origine pakistanaise, et on a une toute petite scène, une réunion visiblement à la mairie avec des représentants de la ville et des membres de la communauté indo-pakistanaise qui disent « Oui, mais c'est terrible, on nous assimile, qu'est-ce qu'on va faire ? On n'est pas tous comme ça. » Il y a un homme qui tient des propos, lui, pour le coup, un peu révoltant. On a une toute petite scène qui est là parce que j'imagine qu'ils se sont dit qu'il fallait la mettre, mais quoi ? Enfin, il manque vraiment une complexité, un développement. Pourquoi mettre cette scène-là ? Juste sur cet exemple, Lucille Comeau.
Alors, juste sur cet exemple, mais je cite du coup ce que j'ai pu lire de ce qu'ont dit les réalisatrices. Elles ont vraiment, selon elles, choisi d'occulter cette question qui s'est posée, hein, d'ailleurs beaucoup, je crois, à l'époque dans les médias anglais. Parce que, à leur avis, et je pense que c'est vraiment un engagement de leur part, le problème pour aller au procès, c'était pas tellement cette question-là. Cette question, elle masquait une autre question qui était de faire comparaître des jeunes fille difficile, entre guillemets, de quartier difficile, et qui donc n'avait de toute façon aucune crédibilité.
Ça, c'est très traité dans la mini-série.
Parce que prompte à sortir de toute façon, à boire, etc. Et ça, c'est pas inintéressant, je trouve.
Absolument, c'est un parti pris. Ça, c'est
du
traité.
Coup, à l'inverse, moi, je trouve que cette scène est dommageable parce que autant complètement occulter cette question, puisque de toute façon, c'était pas le choix, et assumer, du coup, le biais fictionnel, quoi, de choix dans le réel, de sélection du réel. Moi, je suis assez d'accord avec vous sur le personnage de Sarah. Contrairement à vous, Iris, je suis pas absolument convaincue par ce personnage. Je trouve qu'il, en effet, est un peu à gros traits par rapport aux jeunes filles et aux autres personnages d'adultes, notamment aux parents de l'héroïne, et à surtout cette policière qui reprend la chose en charge, qui était à la retraite, qui revient un peu exprès pour ça, mais on ne sait pas exactement quel est son intérêt. Elle essaye de convaincre les filles de comparaître avec des arguments qui parfois sont difficiles à entendre, même du point de vue du spectateur. On se dit, mais qu'est-ce qu'elle veut exactement ? Il y a quelque chose d'un peu malsain dans sa relation, je trouve, avec certaines filles. Là, je trouve que c'est plus intéressant parce que ça révèle justement, quand je parler d'ambiguïté, il n'y a évidemment aucune ambiguïté du point de vue du spectateur, et c'est tout l'intérêt de la série sur ce qui est arrivé à ces jeunes filles. C'est plus l'ambiguïté du rapport de force, de classe institutionnelle qui se joue entre d'abord les filles et puis leurs parents, les filles et puis la justice, la police, etc. Et là, je trouve que justement dans ce personnage de policière, il y a quelque chose de très intéressant sur ce qui peut rater, enfin le gros raté de la justice anglaise. Et alors que Sarah, son personnage, il est plus unilatéral, il apporte pas grand chose à la fiction.
Iris Bray ?
Pour moi, il n'y a absolument en fait aucune ambiguïté. Je ne comprends pas cette idée d'ambiguïté. Pour moi, c'est très clair que ces filles ont été violées et qu'on n'a pas voulu les entendre. Et du coup, je ne vois pas de tension en fait, là-dedans. Moi, ça me dérange vraiment que la question raciale n'ait pas été abordée, parce qu'elle ne peut pas être hors champ, puisqu'elle est au cœur en fait, de tout. Et je pense que c'est une question qui met très mal à l'aise, et que c'est pour ça aussi qu'on n'y va pas.
Mais du coup, cette petite scène est vraiment, pose problème.
Oui, parce que c'est un tout petit peu abordé au moment du procès,
et ça s'arrête.
Puis dans cette scène de mairie. Et du coup, moi, j'aurais trouvé ça plus judicieux qu'on ait vraiment la question du procès soit là, et que cette question soit soulevée pendant le procès, et qu'on ait un éclairage là-dessus. Donc, pour moi, en fait, ce 3x52 fonctionne. J'aurais presque aimé un quatrième épisode. J'ai bien aimé ce format-là. J'aurais pas eu envie de 13 épisodes, en fait, sur cette histoire.
Non, mais j'ai pas dit ça, mais trop court quand même.
Un tout petit peu trop court, peut-être.
Pour aborder la complexité de cette histoire.
De cette question, en tout cas, des agresseurs.
Olivier Joya.
Ouais, moi, je me suis mis à rêver de ce qu'aurait fait un auteur comme David Simon de ce sujet-là. Alors évidemment, il n'est pas anglais, il est américain, et c'est le créateur de The Wire. Ouais. Et c'est vraiment son type de sujet, au sens où il aime montrer un fait et montrer ses conséquences dans toute la société.
Oui, mais il serait rentré par tous les portes et dans tous les foyers.
C'est-à-dire que la question raciale, au sens social et politique du terme, elle aurait été traitée comme une question aussi majeure que celle du sexisme des institutions policières.
Alors, on aurait
exemple.
Plusieurs saisons, là, c'est carrément autre chose.
Ouais, peut-être, mais alors là, pour le coup, c'est vrai que ça manque de fait d'un point de vue peut-être plus romanesque sur les choses, un tout petit peu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas inventer n'importe quoi sur, sur des sujets comme ça, mais il y a quand même des points de vue à prendre. Et il y a plein de... Voilà, ce que fait David Simon, c'est de mélanger les points de vue et de les faire... comme ça, bouillir ensemble. Quoi. Il y a quelque chose toujours de très, très exaltant dans ce qu'il fait.
Elles sont peut-être aussi empêchées par ce souci de réalité, c'est-à-dire qu'il est bien dit que toutes les scènes de tribunal, il est bien dit que ce sont les verbatims, les procès-verbaux du tribunal, et que les propos qu'on entend dans la fiction sont ceux qui ont été réellement tenus. Donc je crois qu'elles sont très attachées à ça, les auteurs de cette mini-série, mais avec ces impasses ou ces écueils que nous...
C'est ça. C'est la différence entre l'Angleterre et l'Amérique. C'est-à-dire que il y aurait eu beaucoup plus de romanesque si un auteur américain s'en était emparé, mais c'est une histoire tellement anglaise, et c'est vraiment, encore une fois, un peu la grandeur de la télé anglaise d'arriver à faire ça.
Ça, on est d'accord. Boris Pinault, deux petits commentaires quand même pour finir sur Three Girls.
Oui, Tulip sur Twitter dit avoir eu la gorge nouée et les larmes aux yeux. Cette série est glaçante, effroyable. Série poignante et très réussie, écrit le dos toujours sur Twitter.
Allez voir par vous-même cette mini-série The Three Girls qui est disponible sur Arte plus 7, donc jusqu'au 21 juin.
France Culture, la dispute, Arne Laporte. Get the right
guy. La troisième série au sommaire de cette dispute, c'est un final qui aurait pu ne pas voir le jour, vous le savez. On rappelle que l'an dernier, à l'issue de la diffusion de la saison 2 de Sense8, Netflix avait annoncé la fin de la série, qu'une campagne massive née dans la dispute, bien sûr, a conduit la plateforme à accorder la mise en production d'un épisode final qui serait donc conclusif. Pour rappel, Sense8, c'était au départ une série des sœurs Wachowski de Joseph Michael Straczynski. Cet ultime épisode, lui, a été pris en charge par Lana Wachowski. Wachowski, toute complètement, pas seule, mais enfin, c'est elle qui tient les rênes. On se souvient quand même, pour rappel, que les frères, autrefois frères, se sont fait connaître avec la trilogie Matrix, qu'ils ont ensuite eu peut-être un peu plus de difficultés et ont perdu quelques fans avec des films comme Cloud Atlas ou Jupiter. Pour faire vite, dans Sense8, il s'agit de suivre 8 personnes qui vivent aux quatre coins du monde, qui se retrouvent liées après avoir eu la même vision d'une femme se suicidant, et sont en fait donc des sensitifs, comme le dit la traduction française. Ils sont des représentants de l'espèce dite Homo sensorium, capables de se substituer les uns aux autres où qu'ils se trouvent. Ils peuvent également communiquer sans être physiquement en présence, ressentir ce que les uns et les autres ressentent. Et par ailleurs, ils sont traqués forcément par le BPO, l'organisation de préservation biologique en français, menée par un terrible personnage qui s'appelle Whispers.
Peu savent ce que c'est que de renaître un jour en sensitif.
En quoi ?
Tu as vu Angelica, mais tu n'en es qu'au début.
Je sens votre main. Sauf que vous n'êtes pas vraiment là.
Que tu n'es plus juste toi. Tu commenceras à percevoir des choses étranges. De la colère, de la joie, de la douleur. Du plaisir, sans aucune raison. Tu as 7 autres toi. Tu accéderas aux connaissances, compétences et à la langue de chacun. Aide-moi. Ils seront pourchassés. Et on n'a plus le temps. Il faut t'enfuir.
Oh putain, je pète un câble.
Au contraire, ton esprit s'étend.
Spoiler alert, guys.
Well, I don't want to give anything away.
No, I'm not gonna spoil this.
No? No.
Oh, please.
No.
Max.
No.
Okay, I'll tell you a secret, but don't tell anyone.
I think, you know, we all die.
I mean, there's one survivor, but I cannot tell you who it is.
Wolfgang, will he die or will he not die? He will not die on this planet.
A blue box arrives, and then I take them into the blue box, and it's bigger on the inside.
Ils se sont amusés évidemment à faire un faux spoiler, divulgacheur de ce dernier épisode, épisode final. Vous avez co-signé, Iris Bray, Olivier Joyard, un article dans les Arocs consacré à ce final. Mais qu'est-ce qui vous différencie dans votre regard sur ce dernier épisode ? On va le savoir maintenant grâce à la dispute. Et c'est Iris Bray qui commence à parler de ce final de Sense8.
Je pense que Sense8, j'ai jamais vraiment compris l'intrigue. Je n'ai jamais regardé pour l'intrigue. Vraiment, je ne comprends rien.
Ça ne s'arrange pas dans le dernier épisode.
Absolument pas, mais
je confirme.
Mais heureusement que je suis restée pour les 10 dernières minutes qui sont absolument fabuleuses, moi je trouve, et qui vont marquer, à mon avis, l'histoire de la télévision. Parce que Lana Wachowski va jusqu'au bout, en fait, de son idée que le futur sera fluide, le futur sera l'amour, le futur se fera sans catégorie. Et dans cette espèce de... Ça se termine par une orgie qu'on avait déjà vu, hein. Il y en avait déjà eu 2 autres, mais alors là, il y a une espèce d'apothéose qui à chaque fois me trouble et me réjouit, et je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement contemporain en fait dans cette manière de terminer la série. Donc je vais quand même divulgâcher en parlant du dernier plan, qui est donc sur je pense à mes parents qui vont écouter cette émission, qui est donc sur un god.
Bonjour, vous êtes en direct.
Voilà, qui est
un
donc sur un god arc-en-ciel luisant.
Un god Michel.
Voilà.
C'est le nom complet.
Et qui est donc là posé à l'horizontale sur un lit. Et c'était un god qu'on avait déjà vu dans le premier épisode. Donc la boucle est bouclée. Et de toute façon, il n'est question que de boucle dans Sense8. Et cette idée de finalement, on ne va pas d'un point A à un point B. On s'en fiche, en fait. Ce qui est intéressant, c'est la circularité. Et c'est ces mouvements incessants qui se répètent et ces corps qui se retrouvent et qui se défont et qui se refont devant nos yeux dans une espèce de danse, une chorégraphie comme ça qui moi, me fascine. Et, Et c'était un très beau final. Et en fait, c'était très émouvant, même si je n'ai pas du tout compris l'intrigue.
Donc avant cette scène finale, qui fait plutôt 5 que 10 minutes, il y a quand même 2h25, puisqu'il fait 2h30 cet épisode. Olivier Joyard, vous en retenez quoi des deux premières heures 25?
Ah, je retiens Paris. Tiens. Parce qu'en fait... On sait tous que la série aurait pu s'arrêter après sa première saison. Je pense que, sincèrement, Sense8 aurait été une grande série si elle s'était arrêtée après sa première saison. Le fait qu'elle arrive au bout de sa troisième saison, cet épisode est une sorte de feu d'artifice, un peu, je dirais, à la fois incroyable, un peu grotesque par moments, et en même temps, quand même, qui rajoute des choses plutôt... Moi, je trouve que le choix, par exemple, de s'installer à Paris... C'est-à-dire qu'il y a une grande partie de l'épisode qui se passe à Paris, où on parle des attentats du 13 novembre, où il y a quelque chose quand même de l'ordre de la consolation qui se joue dans cette série d'une manière générale, c'est-à-dire consolation sur l'identité des gens, sur la violence du monde. Enfin, c'est difficile de ne pas employer des termes un peu bébêtes comme ça, mais il y a vraiment
qui correspondent à l'esprit quand même de la série aussi.
Oui, mais la série l'incarne, elle le fait, et elle va jusqu'au bout, comme disait Iris. Et surtout, moi, j'ai rarement vu Paris filmé avec une telle joie. Enfin, évidemment, il y a la
Depuis
Tour
Amélie Poulain, vous voulez dire.
Oh, Amélie Poulain, c'était horrible.
Non, c'était pour la blague. Hein. Pardon. Je ne l'ai pas vu. Je me suis arrêté au bout de 20 minutes. Je suis sorti de la salle.
Mais vraiment, là, pour le coup, Amélie Poulain, c'était pas excusable.
Non, parce qu'on a droit à Montmartre, aux baguettes, aux bérets.
Oui, c'était un Français qui filmait ça. Et en plus, c'était
plus
pas
américain des personnages
très, très queer. On ne peut pas dire que c'était un Paris queer que filmait Jean-Pierre Jeunet. Bon, idéologiquement, c'était même l'inverse. Oui. C'est vrai,
Je sais pas,
ça n'existait pas tout ça il y a 20 ans.
Ça existait, c'était
Mais je sais, mais en tout cas, c'est ça que j'ai envie de... Moi, j'ai un peu envie de vivre dans cette série, d'une certaine façon, et c'est ce qui me... C'est un peu le but de
série. Que Paris ressemble à Paris de Sense8.
Oui, pourquoi pas.
Il y a du boulot.
Et d'être surtout attiré par cette idée, oui, de la fluidité, de la... Comment dire? Il y a une sorte de joie de filmer aussi qui se dégage de la série. Et après, c'est vrai que à peu près tout est inopérant sur le mode critique, c'est-à-dire quand on se dit on va parler de l'intrigue, on va parler du scénario, moi j'ai pas grand-chose à en dire, pas plus qu'Iris en tous les cas, c'est-à-dire qu'il y a il y a juste quelque chose où je sens que ça filme quelque chose dont beaucoup de gens ont l'intuition, mais ça le filme de manière frontale. C'est un god ceinture, c'est pas un god tout seul, donc c'est un god qui peut être utilisé, non ? Oui, par une femme, qui est utilisée par une femme trans dans la série, au début de la série, et on peut imaginer à la fin qu'il a circulé entre tout le monde, c'est-à-dire hommes, femmes, et donc ça, c'est cette circularité-là qui n'est pas, encore une fois, c'est pas une série pornographique, c'est absolument pas, je pense pas que ce soit le sujet, c'est vraiment autre chose, le sujet, c'est que le phallus ne dirige pas le monde, ou en tout cas pas de la même manière.
Lucille Comeau.
Oui, je suis assez d'accord avec ce qu'Olivier vient de dire. En effet, la sexualité est clairement un moyen d'exprimer autre chose. En revanche, je ne suis pas sûre que la finalité de ce que ça exprime soit aussi subversive ou, disons, change quoi que ce soit. Vous parliez d'Amélie Poulain, c'est drôle. Moi, ça me fait exactement le même effet. Je trouve que, justement, il y a quelque chose dans ce final que moi, j'ai plutôt aimé, au moins la première saison de Sense8, ça me réjouissait plutôt. Là, j'ai trouvé que c'était assez dommage parce que ça rabat quand même beaucoup les cartes sur quelque chose d'extrêmement classique. Dans le fond, cette orgie, comme vous dites, moi, je trouve que ça ressemble pas du tout à une orgie. Ça ressemble quand même plus à quelque chose de très léché, d'érotique, de très chic, dans une chambre d'hôtel de luxe. Enfin, on est vraiment très loin d'une orgie, vraiment, où c'est la folie, où les sexes se mélangent. Là, on voit pas le sexe, à part ce god qui est très beau, très rose, de toutes les couleurs. Bon, c'est pas la folie de la subversion sexuelle non plus, à part que, en effet, ce sont des corps différents du point de vue sexuel, ce sont quand même tous des corps absolument identiques du point de vue de la norme, de la pilosité, de la minceur, de la beauté telle que... Oh, si, quand
non,
même.
Non, il y a une femme noire qui n'est pas du tout mince.
On est quand même assez loin de la représentation de ce que...
Parce que la publicité, c'est le contraire de ça, d'un certain point de vue. C'est-à-dire que pour moi, ça ne montre pas du tout... c'est dans le montage qu'il y a de la subversion. Ce n'est pas dans graphiquement ce que ça montre. Enfin, moi, je trouve que vraiment... Je comprends qu'il y a un côté esthétisant, disons ça, je suis d'accord, mais je trouve pas qu'il y ait une esthétique publicitaire. Mais pardon, je vous ai interrompu.
Alors moi, j'ai pas dit non, publicitaire. Moi, je trouve que l'esthétisation, justement,
au sens Toscani, quoi,
va presque à l'encontre du propos que je pense veut livrer le assez sincèrement cette série de Sense8. C'est quand même une série qui se termine avec un grand mariage, bien institutionnalisée, avec des forces politiques en présence, une sorte de représentativité générale très américaine. Donc on est dans quelque chose de l'entertainment extrêmement classique. Et par ailleurs, vous parliez de Paris, on voit aussi un peu Naples dans le dernier, dans cet épisode final. Il y a quand même quelque chose qui affleurait dans les premiers épisodes, mais je me disais bon, c'est pas grave, c'est marrant, qui est de transformer les lieux en carte postale et du coup qui fait presque douter des liens entre les personnages, c'est-à-dire que les personnages finissent, moi je trouve, rétrospectivement, par être tellement enfermés dans des cartes postales, des lieux d'où ils viennent, que moi j'y crois plus trop à ce que j'aimais, à cette espèce de mondialisation heureuse, tout fonctionne, ça circule hyper bien. Ben non, en fait ça circule pas parce que tout le monde est enfermé dans des clichés de la ville ou du pays d'où ils viennent. Et ça, vraiment à la fin, ça m'a encore plus frappée que dans les premières saisons. Et j'étais presque triste. Enfin, pour le coup, j'étais pas du tout joyeuse à la fin de cette série que j'avais beaucoup aimée au départ, parce que j'avais vraiment l'impression que c'était... Peut-être ça représente un second degré, du coup, une forme d'échec de cet humanisme sexuel, de cet humanisme trans que Lana Wachowski a voulu, je pense, vraiment très sincèrement nous montrer. Donc, bon... Après, la question de l'intrigue, en effet, je suis comme vous, je m'en foutais déjà au départ, donc là, on comprend rien. Il y a des scènes d'action invraisemblables, notamment, non, il faut quand même le dire, une scène dans une boîte de nuit, où je l'ai regardée deux fois, mais j'ai rien compris à ce qui se passait. Enfin, les mouvements sont tellement rapides, il y a un niveau de...
Le pire, c'est quand même les discours explicatifs sur l'histoire.
Ah oui, là, oui, bon, moi là, ça, oui, oui, oui.
Là, on peut penser tout à fait à autre chose. Mais non, mais je reviens sur cette notion peut-être d'enfermement dans les... dans les stéréotypes de chacun, et c'est vrai que j'ai ressenti un peu la même chose que vous, et vous dites qu'il y a une femme noire qui est plus imposante que l'autre, oui, c'est la Vénus Callipyge, donc ça l'enferme aussi, c'est la Vénus Hottentote, elle est absolument dans la case qui lui correspond, donc je trouve que ça, en fait, ça, quand j'ai parlé de publicité, c'est en mode Benetton, enfin, c'est quand même, c'est le triomphe de Benetton, finalement, Sense8, et je trouve que c'est tout le côté à l'eau de rose, le mariage est quand même interminable, m'émeut pas du tout, alors que je peux voir des comédies romantiques et verser ma larme, là c'est tellement long, c'est tellement l'eau de rose. On n'a pas évoqué les quelques incursions dans le registre comique qui sont alors là, mais le gendarme à Saint-Tropez, c'est quand même plus drôle que ça, enfin le personnage de Bug, les blagues qui tombent à plat, enfin il y a vraiment des choses assez navrantes. Donc moi j'étais très friand de Sense8, vous le savez, donc je suis très déçu par ce final. Iris Bray.
Mon pauvre Arnaud.
Bah, vous vous rendez compte, je suis triste.
Mais justement, on doit être triste puisqu'on dit adieu à ces Sense8 et à cette idée justement d'une société où les pères en fait n'existent plus. Moi, je trouve ça extrêmement réjouissant que finalement, j'ai l'impression qu'en fait, Lana Wachowski va jusqu'au bout de sa transition. C'est-à-dire que c'est maintenant, elle est leur maman. La série ne va parler que de maternité. Parce que, bon, en plus, on va au-delà des pays d'origine, puisqu'on va dans un univers un peu parallèle où on rencontre la reine-mère, quoi. Donc là, on part dans... Je veux dire, on sort
la
justement...
La Trinité.
Oui, mais on sort des frontières, etc. Mais moi, je trouve ça absolument fascinant comme univers d'imaginer voilà, un monde qui serait autour des mères, qui ne sont pas forcément des mères biologiques, encore une fois, et qui repensent tous les liens de filiation.
Un petit mot, Boris Pinault.
2h30 et rien pour expliquer la fin de l'épisode précédent, écrit Mika, à la place des fusillades à gogo, un mariage qui traîne en longueur et un final en orgie au ralenti ponctué par un plan sur un god mouillé. Je cherche le chef-d'œuvre là. Flogo trouve le final très propre, rien à redire hormis que ça allait un poil vite parfois. Heureux d'avoir vu une telle série prenant autant de beaux messages. Pourquoi annuler une série comme Sense8 qui redonne foi en l'humanité, demande Lortzi.
Bon, il fallait s'arrêter peut-être, ou est-ce qu'on aurait pu imaginer que ça continue, Olivier Joyard, au-delà des questions de production?
Non, moi je pense qu'il fallait s'arrêter déjà à la fin de la première saison.
Oui, vous l'avez dit tout à l'heure.
C'est plutôt... Mais du coup, s'il y a un côté geste gratuit que j'aime bien, enfin gratuit et pas pour tout le monde, mais en tout cas, esthétiquement, j'aime beaucoup cette idée-là, qu'on fasse un épisode comme ça en plus pour se faire plaisir.
Bon, on a eu gain de cause, c'est quand même ça qui compte, Eric Bray, d'accord?
Oui, beauté du geste.
Beauté du geste. Sense8, le final de Lana Wachowski, disponible sur Netflix. Avant de conclure cette émission, Camille André qui live tweetait... Jusqu'à présent, on nous rejoint pour le jeu de la dispute. Rappel de la question d'hier, Camille, et sa réponse, du coup.
Alors, on se demandait hier quel personnage de Virginia Woolf incarne Isabelle Huppert seule en scène au théâtre de l'Odéon. Et il s'agit de
Orlando.
Incarnée. J'aimerais bien qu'elle revienne, hein, d'ailleurs. C'est un de ses projets, je crois. Mais bon, il faudrait que ça se fasse. Ce soir, on fait gagner des invitations pour la dernière exposition de la Maison Rouge. Ce sera la dernière. La Maison Rouge fermera, hélas, le 28 octobre prochain. D'ici là, et à partir de demain, d'ailleurs, on peut aller voir L'envol ou le rêve de voler. C'est le titre de cette exposition. Quelle est la question, Camille ?
Eh bien, comment était intitulée l'exposition inaugurale de la Maison Rouge le 5 juin en 2004 ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions et bien sûr vous abonner au podcast. Lundi 19h, une dispute consacrée au théâtre. Nous serons accompagnés de Lucille Como, de Fabienne Pascoe et de Marie-Josée Sirache. À notre affiche, le triomphe de l'amour de Marivaux, mise en scène Denis Podalides au Bouffe du Nord. Les ondes magnétiques, écrit et mise en scène par David Lescaut, en ce moment au théâtre du Vieux Colombier pour la Comédie Française. Et puis King Kong Theory de Virginie Despentes, mise en scène Vanessa Larré. C'est au théâtre de l'Atelier.